Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap avec Jean Gattel. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, je reçois ce jour un homme passionnant et passionné, professeur d'économie, entré en politique en 78, élu député en 81, député du Vaucluse, je pense, mais il va nous le préciser, qui fut également secrétaire de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale et puis secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en 83, donc qui était, semble-t-il, Charles Hernu. Et puis chargé de l'économie sociale auprès du Premier ministre de 84 à 86, précisant qu'il était quand même le premier secrétaire d'État consacré à cette thématique qu'il n'en avait jamais eu avant. Et puis aujourd'hui, conférencier, professeur écrivain et qui se déplace beaucoup. Et donc Jean Gattel, nous sommes bien sûr à distance, il est à Lille-sur-Sorgue et moi sur mes causes du Lot, mais nous arrivons quand même à nous retrouver et à pouvoir échanger sur ce thème passionnant et sur bien d'autres. Jean Gattel, bonjour.
Bonjour Jacques, je suis très heureux de te retrouver et l'Occitanie me manque.
Eh bien, on t'y accueillera avec grand plaisir quand tu viendras faire des signatures le jour où nous pourrons, et toi et moi, signer nos livres respectifs, ce qui ne semble pas être forcément pour demain, mais on va quand même croiser les doigts. Alors, première partie de notre émission, elle va être centrée sur ton dernier livre, Jean Gattel, l'économie sociale et
solidaire. Monte un peu ton son, Jacques, parce que mon ordi est un petit peu faiblard du côté audition. Voilà.
Je pense être au maximum de ce que je puisse faire,
bon, a priori. Bien, ben moi aussi. Allons-y.
On va quand même, mais le son est bon pour moi. Ça, c'est les ennuis du direct et effectivement de ce système. Alors, ce livre, donc l'économie sociale et solidaire, qui est publié dans une maison d'édition qui s'appelle, ça n'étonnera personne, Libre et solidaire, est sous-titré « Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir ». Donc déjà, beaucoup de choses sont dites et pour situer encore mieux le propos, je vous propose de vous lire les deux premières phrases d'introduction. Donc, je vais citer Jean Gattel. Au milieu de cette tempête qui secoue le monde, submergé au même instant par des crises politiques, sociales et surtout écologiques sans précédent, je veux affirmer ma conviction que l'économie sociale et solidaire, plus qu'un ensemble d'entreprises et d'entrepreneurs, est un nouveau modèle de développement, peut-être le seul, qui puisse encore sauver notre planète et les humains qui la peuplent. J'ai cette certitude parce que l'économie sociale et solidaire a dans son ADN la résistance historique au modèle capitaliste, l'auto-organisation de la société civile, des valeurs basées sur la responsabilité et la solidarité, une capacité à répondre aux menaces environnementales, le primat de l'humain sur le profit. Voilà, c'était les deux premières phrases. Alors Jean Gattel, qu'est-ce que c'est que cette économie sociale et solidaire? Comment peut-on la définir?
Je vais m'en tenir à la définition juridique, et puisque nous avons la chance en France, et c'est un des rares pays au monde à avoir cette chance-là, une loi cadre sur l'économie sociale. Il a fallu d'ailleurs attendre 2014, exactement le 31 juillet 2014, pour que cette loi cadre voie le jour. Alors que les racines de l'économie sociale et solidaire puisent dans la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, puisque c'est aux alentours de 1900 qu'apparaissent les premières sociétés mutualistes et qu'apparaissent véritablement les premières coopératives hors du champ agricole. Et puis, c'est en 1901 qu'apparaît le mouvement associatif hein, créé par cette loi de liberté qui est la loi de 1901. Donc il nous a fallu attendre pratiquement un siècle pour que ce secteur qui s'est beaucoup développé pendant le XXe siècle, mais d'une façon un petit peu désordonnée, c'est-à-dire que chaque famille, puisqu'on parle de famille dans l'économie sociale, a développé sa propre évolution. Hein. Les mutuelles ont connu un fort développement, surtout après 1945 et la loi sur la sécurité sociale. Les coopératives se sont développées progressivement dans un certain nombre de secteurs importants, et les associations surtout ont connu un développement extrêmement fort à partir là aussi de la libération et de 1945. Puisqu'elles ont été en première ligne face aux problèmes sociaux, face aux difficultés qu'a rencontrées la société industrielle et puis post-industrielle française à partir des années 1980. Donc, pour revenir à cette loi cadre du 31 juillet 2014, qu'on appelle également la loi Hamon, du nom de Benoît Hamon, qui est un de mes amis politiques et qui a apporté cette loi comme ministre, hein, puisque moi j'ai été le premier secrétaire d'État à l'économie sociale et lui a été le premier ministre chargé de l'économie sociale, juste avant d'ailleurs sa démission du gouvernement Hollande. Et donc la définition de l'économie sociale consacre quatre familles comme composant ce secteur, avec cette particularité que ce sont des sociétés, les entreprises de l'économie sociale, puisqu'il s'agit bien d'entreprises, sont des entreprises dont la finalité est surtout le respect de l'humain, la valorisation de l'humain, le respect de l'environnement, la non-lucrativité, qui est une valeur fondamentale dans l'économie sociale, c'est-à-dire que les entreprises de l'économie sociale peuvent dégager des excédents, mais qu'en aucun cas ces excédents sont privatisés. Ils sont réinjectés dans la structure. Et ça, c'est la différence fondamentale avec les entreprises classiques qui ont souvent comme unique préoccupation de dégager des bénéfices pour rémunérer sous forme de dividendes les actionnaires. Et puis, autre principe de l'économie sociale, sociale et solidaire, la démocratie interne à l'intérieur des structures, hein, ce qui est parfois un vœu pieux parce que dans certaines structures dites de l'économie sociale, on voit bien que parfois on prend un petit peu des libertés avec cette gouvernance partagée et cette démocratie économique qui devrait être pourtant l'une des marques de l'économie sociale. En résumé, donc quatre composantes dans l'économie sociale, trois historiques, hein, les mutuelles et de prévoyance et d'assurance. Hein, de prévoyance, l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr la plus grosse mutuelle française qui est la MGEN, hein, avec 1 200 000 sociétaires. Comme compagnie d'assurance à caractère mutuel, je resterai dans le champ de l'éducation nationale avec la MAIF, hein. Et puis ensuite, donc, deuxième famille, les coopératives, toutes type de coopératives, hein, des coopératives agricoles aux coopératives dites de production, coopératives de marins-pêcheurs, coopératives d'HLM, coopératives d'artisans, et puis enfin les associations, hein, qui représentent le plus gros bataillon de l'économie sociale et solidaire, puisque sur les 2 400 000 salariés que compte ce secteur, ce qui est absolument énorme, puisque c'est autant que le bâtiment et les travaux publics, on estime qu'il y a 2 millions de salariés qui travaillent dans le mouvement associatif, 200 000 dans le mouvement mutualiste et 200 000 dans le mouvement coopératif. Et parmi les 2 millions qui travaillent dans le secteur associatif, les chiffres les plus importants se retrouvent bien sûr dans le secteur sanitaire et social, c'est-à-dire toute la gestion des établissements d'accueil pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, tout ce qui est service à la personne et service à domicile, en gros toute l'économie des services. Et puis on trouve également bien bien sûr le mouvement associatif très très fort dans le domaine culturel, et Dieu sait si elles souffrent à l'heure actuelle, les associations du domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation. Bref, l'association est une forme d'entreprise très particulière, mais ce sont des entreprises et qui sont d'ailleurs gérées comme telles. Enfin, Benoît Hamon a rajouté dans la loi de 2014 une quatrième famille qui est celle de l'entrepreneuriat social, qui est une famille un petit peu spéciale par rapport à l'économie sociale historique française, puisqu'elle accepte les sociétés de capitaux à condition que celles-ci reçoivent un label qui leur est décerné par les services de l'État en département, donc le préfet ou le directeur départemental du travail, qui est un label qui s'appelle ESU, c'est-à-dire qu'il faut que ces entreprises de capitaux, donc essentiellement des SARL et des SAS, respectent un cahier des charges extrêmement précis, en particulier que la lucrativité dans ces entreprises, puisqu'elles sont des entreprises de capitaux, elles sont autorisées à avoir une certaine lucrativité, mais qui ne doit pas dépasser 10%. Enfin, la loi n'est pas claire puisqu'elle parle de lucrativité limitée. Également qu'elles doivent respecter dans leur finalité une finalité environnementale et solidaire. Et enfin, qu'elles doivent respecter un management démocratique. Voilà ce que je peux te dire, cher Jacques, dans un premier volet sur la définition de l'économie sociale et solidaire. Mais nos amis auditeurs retrouveront tout cela en détail dans mon bouquin, puisque la première partie de ce bouquin est précisément consacrée à la description de l'économie sociale telle que je la découvre en 1984, puisque tu as eu la gentillesse de rappeler qu'il n'y avait jamais eu de ministère et de secrétariat d'État consacré à ce secteur. C'est une volonté propre du président Mitterrand, pour diverses raisons que je pourrais expliciter, mais il était à la recherche dans pleine période de crise économique profonde où la France a perdu les charbonnages, la sidérurgie, le textile, les chantiers navals, d'un nouveau modèle de développement, et il pensait que faire appel à la société, aux citoyens pour créer eux-mêmes leur propre activité pouvait être au niveau des territoires en particulier. C'est pour ça que économie sociale et développement local, développement territorial sont étroitement liés, pouvait être un palliatif à cette crise du capitalisme national qui depuis est devenue la crise du capitalisme international, et on est en plein dedans.
Alors Jean, les chiffres que vous nous avez donnés ou que tu nous as donnés paraissent extrêmement importants. Pour autant, on a quand même l'impression que cette économie sociale et solidaire dans la tête de beaucoup reste tout à fait marginale et que ce serait une espèce de sous-système économique. Comment faut-il voir cela? Est-ce que ce que je dis là, le primat de l'économie capitaliste classique, est-il toujours vrai au jour d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses que cette économie sociale et solidaire a vocation un jour ou l'autre, et on reviendra sur la deuxième partie de ton livre à ce moment-là, la vocation à prendre le dessus un jour? Est-ce que donc c'est un sous-système économique ou est-ce que c'est un vrai système économique qui a parfaitement sa place dans le paysage ?
C'est un vrai système économique puisqu'il représente à peu près, si on reste dans les paramètres imposés par, disons, l'idéologie dominante, c'est-à-dire quantitatif, il représente à peu près 12 à 13 % du produit intérieur brut, et on sait à quel point cet indicateur est extrêmement discutable. La preuve, c'est qu'il y a tout un débat sur les indicateurs économiques à l'heure actuelle, puisqu'ils ne prennent absolument pas en compte le bien-être social et le bien-être humain, et que même les pays scandinaves voudraient lui substituer un produit, une mesure du bonheur intérieur brut, plus que de la quantité produite, parce que la quantité produite n'a jamais signifié le bonheur d'une société. C'est pas parce qu'on est entouré d'objets et de marchandises que nous sommes dans une société heureuse.
Le bouton qui mesure précisément le bonheur.
Exactement, c'est le Bhoutan est le premier pays à avoir changé les indicateurs économiques, mais enfin, comme nous sommes dominés par l'idéologie capitaliste néolibérale, hein, on nous impose toujours des mesures quantitatives, ce qui est extrêmement pénible d'ailleurs pour l'économie sociale, puisqu'elle se situe en grande partie dans le champ du social et de l'humain, et qu'on ne peut absolument pas mesurer l'impact social et l'impact humain de telle ou telle entreprise, structure ou association.
Alors justement, Jean, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Tu as énoncé au départ, dans ton propos, un certain nombre de valeurs qui définissent l'économie sociale et solidaire. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que ces valeurs se retrouvent totalement dans l'économie sociale et solidaire. J'ai plutôt l'impression qu'il y a comme une espèce de dérapage si on regarde, par exemple, les mutuelles, si on regarde les banques qui sont constituées sous forme plus ou moins coopérative. Si on regarde les grandes coopératives du monde agricole, j'ai plutôt l'impression de voir là des entités capitalistiques et qui fonctionnent, et d'ailleurs tu le dis dans ton livre, qui fonctionnent avec des principes et des valeurs qui ne sont pas celles qui devraient présider à l'économie sociale et solidaire.
Oui, alors c'est un grand problème. Alors tout d'abord, je voudrais terminer sur ta question précédente. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de l'économie sociale et solidaire? Je crois un petit peu que c'est un échec collectif de nous-mêmes, hein, militants ou acteurs de l'économie sociale, qui n'avons pas su trouver les méthodes de communication pour montrer l'importance de ce secteur. Parce que 2,4 millions, enfin, ça va peut-être te surprendre, mais 10 fois le nombre de salariés de l'industrie automobile. Alors on nous répète sans arrêt que l'industrie automobile est un secteur clé de la croissance française. Elle a simplement 200 000 salariés, puisque l'industrie automobile française, maintenant, ça consiste uniquement à assembler des pièces qui sont fabriquées dans les pays à bas coût, alors que l'économie sociale et solidaire, ça représente 10 fois ce poids en termes de salariés. Alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables collectivement de créer un lobby de l'économie sociale? Peut-être parce qu'elle a été toujours très divisée entre ces trois familles, peut-être également parce qu'on n'a pas suffisamment compris l'évolution d'une société qui travaille, enfin qui fonctionne uniquement à l'image de marque et à la communication. Alors, à ta deuxième question sur le problème du respect des valeurs fondamentales de l'économie sociale, je ne peux que partager ton analyse. Et d'ailleurs, elle se résume en une phrase, un statut n'est pas vertu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un statut coopératif qu'on a les vertus qu'on pourrait réclamer d'une coopérative. Alors se pose là immédiatement le problème de savoir pourquoi un certain nombre de structures, généralement les plus grosses, dérapent et finalement oublient leurs principes éthiques de départ, en particulier dans la gouvernance et dans la façon de fonctionner en interne de ces entreprises. Et tu as eu raison de citer en particulier le contre-exemple majeur qui est celui des banques dites coopératives, hein. Est-ce que le Crédit Agricole est une banque coopérative quand on sait qu'il a perdu des milliards et des milliards dans la crise des subprimes américains? Est-ce que vraiment la banque de l'agriculture française a vocation à aller faire des spéculations sur le marché boursier américain? Mais on pourrait également parler d'autres banques ou d'autres structures dont je ne parlerai pas ce matin parce que je ne veux quand même pas trop me faire d'ennemis au sein de l'économie sociale et solidaire qui savent très bien ce que je pense de certains de leurs fonctionnements. Je crois que le problème, il est lié à la taille de l'entreprise. Et c'est pour ça que moi, je plaide plutôt pour une économie sociale et solidaire qui reste dans une certaine dimension, la dimension qui permet effectivement d'associer les salariés ou les sociétaires à la prise de décision. On ne peut pas, quand on est à la tête, comme l'est mon ami Raymond Berthelier de la MGEN, hein, on ne peut pas consulter 1 200 000 sociétaires pour prendre des décisions. Donc forcément, on tombe dans un management géré façon technostructure, hein, managérial à l'américaine, un petit peu, hein, pyramidal. pyramidale. Et donc, peut-être que l'avenir, il est dans les petites structures, et en particulier les petites structures presque autogérées par les citoyens dans le territoire. C'est cela, moi, ma nouvelle conception de l'économie sociale. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer à travers la crise du Covid, parce qu'on voit à travers la crise du Covid, où nous avons été un petit peu fragmentés territoire par territoire, que sont nés ici ou là des expériences solidaires très, très intéressantes, hein, dans tous les domaines, dans le domaine social, mais également dans le domaine de la production, de la création de nouveaux services, de réponses. À de nouveaux besoins. Et c'est vraisemblablement là, dans le territoire et sur le territoire, entre les mains des citoyens eux-mêmes, que peut se créer l'économie sociale que j'appelle de mes voeux et qui peut être le moteur d'un nouveau modèle de développement.
Jean Gattel, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques inconvénients dans ce système? Moi, j'en vois deux. Le premier, ce serait un besoin de capital. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de distribution de dividendes, mais il y a quand même des structures qui sont souvent sous-capitalisées. Et puis, un autre inconvénient que je vois sur lequel tu vas me donner ton analyse, est-ce que tous les sociétaires ont vraiment conscience de leur situation de sociétaire, parce que c'est quand même un homme, une voix. Est-ce qu'ils sont, c'est la démocratie, est-ce qu'ils sont toujours suffisamment formés pour exercer cette démocratie?
Tes deux questions sont encore une fois particulièrement pertinentes, cher Jacques. C'est vrai que l'un des problèmes dans le développement des entreprises de l'économie sociale, c'est leur manque de fonds propres, hein. Alors, le mouvement coopératif peut le dépasser parce qu'il peut faire sans cesse des appels de fonds et de renforcement de ces fonds propres en appelant les coopérateurs membres de la coopérative à remettre un petit peu de l'argent dans l'entreprise, hein. Mais il arrive un moment où on est au bout un petit peu de cette possibilité de se tourner uniquement vers les seuls coopérateurs. Alors, les coopératives peuvent éventuellement augmenter leur capital en émettant des titres participatifs, hein, qui peuvent être souscrits par des investisseurs institutionnels. Elles peuvent se tourner également vers la Banque française pour l'investissement, vers la Caisse des dépôts et consignations, et même, puisque je l'avais introduit par une loi de 85, vers des investisseurs privés, à condition que ceux-ci acceptent la règle de la coopération, c'est-à-dire un homme, une voix. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour un investisseur qui met de l'argent dans le capital de la coopérative de se voir finalement considéré au sein des décisions un seul parmi les autres. Quant au mouvement associatif, il manque effectivement lui aussi cruellement de fonds propres, hein, puisque ces fonds propres ne peuvent venir que des excédents dégagés. Alors, dans la dernière année de mon secrétariat d'État, j'avais lancé une idée que Benoît Hamon d'ailleurs reprend dans la loi de 2014, qui est la possibilité pour les associations de créer, de lancer sur le marché des particuliers, hein, de l'épargne de particuliers, et en particulier de l'épargne de proximité, des titres associatifs, hein, qui pourraient être souscrits par des gens, des citoyens qui veulent absolument aider au développement de l'association ou de la coopérative et qui seraient rémunérés en fonction de leur apport. Donc, c'est des pistes que nous n'avons pas suffisamment creusées à l'heure actuelle, dans l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire, et sur lesquelles effectivement il faut se pencher. Sur le deuxième point, est-ce que les gens qui sont sociétaires d'une coopérative ou qui sont membres d'une association sont véritablement formés à être des gens exerçant, des citoyens exerçant leurs responsabilités? Je dirais que ce n'est pas un problème qui est spécifique à l'économie sociale, hein. Est-ce que véritablement nous sommes dans une société où les citoyens ont les moyens d'avoir la connaissance de ce qui se passe sur le plan de leur vie économique. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés ou bien est-ce qu'ils sont finalement manipulés pour n'être que des consommateurs? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui finalement transforme chacun d'entre nous ou la plupart d'entre nous de citoyens en consommateurs? En tout cas, on voit bien que ça, c'est le but ultime du néolibéralisme, de façon à ce qu'il n'y ait pas de critique par rapport à ce système et que nous soyons des machines à ingérer des objets et uniquement cela pour que le système tourne et que les profits aillent au profit, quelles que soient les conséquences à terme de ces inégalités qui sont de plus en plus énormes et insupportables dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, alors je posais cette question, Jean, parce que pour avoir dans une vie antérieure, en tant qu'avocat, suivi, conseiller des structures coopératives, j'ai bien pris conscience qu'il y avait quand même un gros problème et que beaucoup de coopérateurs se comportaient comme des salariés lambda et n'avaient pas la conscience du fait qu'ils étaient, entre guillemets, propriétaires, un des propriétaires de l'entreprise, oui. Et ils n'avaient pas des réactions, entre guillemets, d'actionnaires. Ils avaient plutôt des revendications de salariés, pas d'actionnaires, alors qu'ils avaient la double casquette, et ça, c'est un peu compliqué.
Mais tu as raison, il faudrait, mais certaines structures le font, hein, des formations extrêmement poussées, hein, à la fois des salariés de ces structures, hein, parce que c'est important qu'ils sachent qu'ils sont dans une entreprise un petit peu particulière, hein, qui n'est pas une entreprise classique et qui n'obéit pas aux mêmes critères et aux mêmes moyens de fonctionnement qu'une entreprise capitaliste classique. Et puis, il faudrait également, mais ça, certaines structures le font, hein, une formation des sociétaires, la MGEN le fait, la Massif le fait, la Maïf le fait, mais il faudrait vraisemblablement que ces structures aillent encore peut-être plus loin dans la formation et de leurs salariés et de leurs membres. Tu as raison.
Jean, nous allons faire une première pause musicale qui sera aussi la dernière parce que nous avons beaucoup de choses à dire, donc je n'avais prévu une autre, mais nous n'en ferons qu'une. Et ce sera bien évidemment celle que tu as choisie. Alors tu as choisi Jean Ferrat, Ma France. Pourquoi ce choix ?
Parce que d'abord Ferrat pour moi c'est une icône, quoi, hein. C'est un homme de la révolte, c'est un homme du combat, c'est un homme de la résistance, c'est un homme qui sait dire non, qui toute sa vie a dit non, qui a composé à la fois des chansons absolument merveilleuses, la plupart du temps empruntées à Aragon, hein, dont il chante les poèmes d'une façon absolument merveilleuse. Quant à Ma France, parce que cette chanson, elle porte toutes les valeurs de la France combative et résistante, hein, la France des travailleurs, la France des petites gens, hein, la France des gens qui sont exploités par un système qui broie le corps et les âmes, hein, et que elle nous renvoie à une image de la France éternelle avec ses valeurs, ses principes qui malheureusement à l'heure actuelles sont bien bafouées par les gouvernements successifs.
Allez, nous écoutons Jean Ferrat, le choix de notre invité Jean Gattel, Ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, Ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, Ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Voilà, c'était Jean Ferrat, ma France. Nous retrouvons Jean Gattel, avec qui nous débattons, nous évoquons son livre « L'économie sociale et solidaire » aux éditions Libre et Solidaire. Alors Jean Gattel, dans ce livre, il faut attendre, mais ce qui précède est tout à fait passionnant. Et puis quand on arrive au chapitre 8, nous trouvons quelque chose d'absolument passionnant pour moi, qui me va droit au cœur en tant que collapsologue, quelque peu optimiste quand même, hein, chapitre 8, la crise systémique. Et là, tu nous expliques, puisque nous tutoyons, ça ne sert à rien de le dissimuler aux auditeurs, nous attaquons un sujet absolument fondamental qui est, je te laisse le développer. Qu'est-ce que la crise systémique pour toi? Et tu en déduis, et tu vas revenir là-dessus bien évidemment, que l'économie sociale et solidaire peut être aussi une voie qui nous permette la résilience.
Alors, ma rencontre avec ce que tu appelles l'école de la collapsologie, ça a été pour moi le grand bouleversement des dernières années que je viens de vivre. J'avais été formaté, hein, par mon milieu familial, par ma formation, par mon militantisme, par l'expérience de mes mandats d'élu, hein, de député, conseiller général, maire adjoint, enfin j'ai tout été, hein, y compris conseiller régional et conseiller départemental. J'étais dans une logique qui est une logique de ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire que j'étais convaincu que le système dans lequel nous étions était finalement acceptable à condition qu'il soit régulé, à condition qu'il ait une forte connotation de redistribution sociale. Et dans les années 2015-2016, 2016, ça coïncide d'ailleurs avec la fin de mon activité professionnelle, j'ai découvert le livre de Pablo Servigné, « Comment tout peut s'effondrer », et ça a été pour moi véritablement une révélation, autant que qu'avaient pu l'être des livres que j'avais lus antérieurement, des grands socialistes, hein, des grands penseurs socialistes, c'est-à-dire Blum, François Mitterrand, etc. Et je me suis dit que finalement, j'étais passé à côté d'une bonne partie de la réalité de l'évolution de l'humanité tout entière, et que le modèle productiviste, hein, qui est celui sur lequel est fondé l'ensemble du développement de notre planète, hein, et qui a été imposé par la révolution industrielle, d'abord dans le vieux monde européen, puis ensuite qui a diffusé aux États-Unis, puis ensuite diffusé dans des pays dits émergents, était un système qui était voué à nous amener à une catastrophe ultime, parce qu'il reposait sur la notion quantitative du toujours plus, hein. On gagnerait en quelque sorte notre bonheur et notre mieux-être en étant accompagné de plus d'objets, que ces objets soient de plus en plus perfectionnés, donc dans une approche uniquement quantitative. Or, pour viser à cette approche quantitative qu'on appelle purement et simplement la recherche de la croissance, hein, il faut d'abord une croissance gérée par le mode capitaliste, qui est le mode dominant de notre planète, hein. Il faut deux conditions. Il faut l'exploitation des hommes, et on voit bien que celle-ci, elle continue à être outrancière et révoltante, en particulier quand on voit les conditions de vie d'un certain nombre de pays, qui sont précisément les pays à bas coûts salariaux que l'on exploite, hein. Donc c'est essentiellement toute l'Asie, hein, et une partie de l'Amérique du Sud. Et qu'il fallait également, pour que ce système fonctionne, hein, qu'il puise sur les ressources naturelles. Le problème, c'est que la Terre, elle est limitée, hein, elle ne peut donner aux hommes que ce qu'elle a en son sein. Et qu'on a tellement tiré sur les ressources naturelles, on a tellement joué avec ce qu'est la nature et l'environnement, qu'on arrive à un point de non-retour. C'est pour ça que je parle de crise systémique, parce que c'est la crise du système capitaliste tout entière, hein, dans tous ses aspects économiques, sociaux, citoyens. On ne peut pas continuer sur ce modèle-là du toujours plus et de la croissance indéterminée, parce que on ne peut pas faire une croissance illimitée dans un monde qui est fini. Et je vais citer pour nos auditeurs deux chiffres qui sont révélateurs. Si l'ensemble de l'humanité avait le niveau de vie d'un Américain moyen, et je parle bien d'un Américain moyen, il faudrait 5 planètes Terre pour satisfaire ce niveau de vie. Et si l'ensemble de la planète avait le niveau de vie d'un Français moyen, et je répète bien d'un Français moyen, parce que nous sommes dans un pays où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, puisqu'il y a des gens qui en un jour gagnent ce que d'autres gagnent en une vie, hein, ce qui est absolument scandaleux et qui montre bien à quel point notre pouvoir politique est complètement dans l'impuissance, ou plus exactement dans la tolérance par rapport à ce genre de dérive, hein, eh bien, il faudrait 2 planètes Terre. Or, nous n'en avons qu'une qui est au bout du bout, hein. Elle est au bout du bout d'abord dans ce qu'elle peut produire en termes de production de matière, hein, sur le plan alimentaire, et puis également parce que le mode de production que nous avons choisi, hein, la croissance à tout prix, et la croissance à n'importe quel coût a créé des dégâts sur l'environnement qui sont inimaginables, hein. Et on le voit bien aujourd'hui, puisque je pense que nous sommes rentrés cette fois-ci dans la crise systémique, hein, annoncée par Pablo Servigné et l'école de la collapsologie. Alors nous ne l'attendions pas sous forme d'une pandémie et d'une crise sanitaire, hein, nous l'attendions plutôt sous la forme d'une crise climatique politique qui d'ailleurs est sous-jacente et continue et va avoir des conséquences extrêmement dramatiques. On avait mésestimé la possibilité d'une crise sanitaire et nous avons été plongés dans cette crise sanitaire, dans cette pandémie qui a laissé l'ensemble des pays du monde complètement inertes puisqu'ils avaient pour la plupart d'entre eux complètement abandonné leur système de santé, leur système hospitalier, hein, comme quelque chose jugé comme étant non essentiel, hein, pour reprendre une phrase qui maintenant crée plus de crispation que de sourire, hein, et l'abandon du système hospitalier, on le voit bien en France où on a passé 20 ans à fermer des lits au nom d'une rentabilité hospitalière, comme d'ailleurs on continue à fermer des classes et à réduire les personnels dans l'éducation nationale sans se rendre compte des dégâts à long terme que cela fait. Et puis on voit bien également que le système capitaliste de la globalisation a fait que nous avons perdu ici en France les structures mêmes qui nous auraient permis de répondre à la pandémie, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'industrie pharmaceutique, nous manquons cruellement de laboratoires de recherche dans le domaine de la vaccination, nous sommes dépendants d'autres pays, enfin bref, tout ça montre bien que la recherche du profit à tout prix pour quelques-uns plonge l'ensemble de l'humanité dans des crises sans fond. Alors moi, je suis de ceux qui sont même particulièrement inquiets parce que je pense qu'on va arriver à surmonter la pandémie actuelle. Ceci dit, il y en a d'autres qui se préparent, hein, parce qu'une pandémie, ça n'est jamais rien que la rupture dans la chaîne du vivant, hein, c'est-à-dire c'est une rupture entre la nature et l'humain. Et là, on voit bien que c'est le cas puisque la pandémie est née de la part d'espèces animales. Hein. On pense qu'elle vient d'une chauve-souris sur un marché asiatique. Hein. Et donc, c'est bien le signe de la rupture. Hein. Pourquoi des espèces animales secrètent-elles des virus? Eh bien, parce qu'elles sont chassées de leur milieu naturel et que donc elles secrètent en elles-mêmes des réponses à leurs propres troubles, hein, comme nous-mêmes sécrétons parfois des hormones capables de stopper, d'arrêter une agression. Et on va peut-être trouver des vaccins contre la pandémie et la crise sanitaire, mais on n'a pas de vaccin contre la crise climatique et les dégâts causés sur l'environnement.
Oui, tout à fait. Ben, écoute, Jean, je pense que je vais t'embaucher pour co-animer avec moi et avec mon complice Maxime Maury, qui est lui aussi économiste, notre émission Résilience sur Esprit Occitanie, que l'on a lancée il y a quelques mois parce que nous avons fait aussi cette démarche de passer par un certain nombre d'auteurs, de lire Gaël Giraud et de l'écouter, de lire Jean-Marc Jancovici, Raphaël Servigne, etc. Bien sûr. Toute cette équipe de gens absolument brillants et qui nous ont précédés dans cette prise de conscience, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour revenir au sujet principal, quel lien fais-tu entre cette situation absolument catastrophique, et d'ailleurs bien décrite par celui qui fut ton ancien patron, si tu me permets le mot, Laurent Fabius, dans son dernier opus Rouge Carbone, hein, où il fait aussi un peu l'état des lieux, avec sans prendre trop de précautions oratoires, il faut bien le dire. Quel lien fais-tu entre cette situation et l'économie sociale et solidaire? Comment penses-tu que cette économie sociale et solidaire peut nous aider, nous amener vers une certaine résilience?
Eh bien, parce que elle s'arrache du moteur principal du système néolibéral qui est la recherche du profit maximum, puisque elle fonctionne sur un autre carburant, hein, qui est la recherche de la satisfaction sociétale, de la solidarité et du respect environnemental. Donc les moteurs en quelque sorte du développement changent complètement. Au lieu d'être dans le quantitatif, on est dans le le qualitatif et au lieu d'être dans la marchandise, on est dans l'humain. Donc ça, c'est extrêmement important, hein. Et moi, je pense que plus il y aura de sociétés, de personnes, donc complètement dégagées de notions de rentabilité et de profit maximum, plus il y aura de sociétés, de personnes qui remplaceront des sociétés de capitaux, mieux nous nous porterons. Enfin, je pense que l'économie sociale, elle est en train de retrouver ses racines historiques, c'est-à-dire l'ancrage dans le local. Et moi, je pense que l'une des réponses à la globalisation mortifère néolibérale, c'est le repli sur nos territoires et la valorisation de nos territoires. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on arrive bien à un nouveau modèle de développement. Mais je le précise, hein, et tu as dû le remarquer dans mon bouquin, hein, le changement de la nature des entreprises, hein, même si elle se fait progressivement, ne nous empêchera pas d'avoir besoin d'un État régulateur, hein, parce que je pense qu'il faut que l'État retrouve dans la période actuelle son rôle de régulation, son rôle de stratège, hein, parce que les entreprises de l'économie sociale, quelle que soit leur bonne volonté, elles ne pourront jamais s'attaquer à des problèmes fondamentaux, hein, dans lesquels l'État est l'unique acteur. Hein. Si on veut changer le modèle énergétique, ça ne peut venir que d'une volonté de l'État. Si on veut changer les modalités du transport, ça ne peut venir que de la volonté de l'État. Si on veut, par exemple, reconquérir notre indépendance pharmaceutique, nous en parlions tout à l'heure en off, il faut que cela vienne de l'État. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut réquisitionner à l'heure actuelle les laboratoires de Sanofi, ne serait-ce que parce qu'ils ont été financés par de l'argent public qu'il y en a marre de voir que la France, qui avait un bijou pharmaceutique fantastique avec Sanofi, est maintenant à la traîne, quoi, hein. Le vaccin Sanofi n'est pas prêt. Sanofi continue à faire des économies en licenciant par centaines des salariés. Tout ça est inadmissible parce que Sanofi était une filiale de Elf, qui elle-même était une émanation avec des capitaux d'État. Bon, on a privatisé Elf, qui a été revendu à Total, hein. Sanofi s'est retrouvé entre les mains d'investisseurs institutionnels et s'est lancé dans la recherche du profit. Donc, il faut ou nationaliser Sanofi ou en tout cas le réquisitionner, puisque nous sommes en guerre et que notre mini-général dit qu'on est en guerre, et ben prenons les instruments de la guerre. Et dans la guerre, on réquisitionne, voilà, ce qui est absolument nécessaire et ce qui est vital pour la survie de la nation.
Jean Gattel, oui, on a très bien entendu le discours, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est une situation absolument dramatique que celle de Sanofi et surtout de ses salariés et de la recherche. Élargissons un peu le débat, laissons un peu de côté l'économie sociale et solidaire. Je crois que vous travaillez, ou tu travailles, Jean, sur un autre livre. Tu peux peut-être nous en dire un mot rapidement sur quel sera le thème de ce livre.
Ah oui, alors, tu me pousses dans mes retranchements, mais j'y vais volontiers, puisque maintenant, ça n'est plus qu'une question de semaine, puisque ce livre doit paraître le 1er mars, hein, et donc autant lever le secret tout de suite. Alors, je sors complètement de mes réflexions sur l'économie sociale et solidaire, qui est pourtant véritablement l'engagement de ma vie, hein, pour basculer dans l'autre engagement de ma vie, qui est mon militantisme politique au sein du Parti Socialiste, puisque je vais rectifier un tout petit peu ce que tu as dit dans ma présentation. J'ai adhéré au Parti Socialiste en 1971, à Épinay. Hein, donc, tu vois, c'était
le congrès fondateur.
Ma première campagne. Pardon, j'étais un des pères fondateurs, oui, qui avait 20 ans, des jeunes pères fondateurs. Et j'ai fait ma première campagne, d'abord municipale à Orange en 1977, et ma première campagne législative qui a été ratée en 1978, avant d'être élu en 1981 dans la 4e circonscription du Vaucluse. Et donc, ce livre, pour en revenir à lui, je vais montrer la page de garde. Hein, ça s'appelle, le nom est un peu provocateur, hein, « Itinéraire d'un socialiste perdu », parce que je fais dans ce livre un descriptif de la lente descente aux enfers du Parti socialiste, à la fois parce qu'il a perdu ses repères idéologiques, hein, il les a perdus en grande partie dès le premier septennat du président Mitterrand, hein, pour lequel j'ai une admiration sans borne, hein, mais ce qui n'empêche pas la critique sur un certain nombre de décisions politiques. Hein. Puis ensuite, ça a été également la descente dans le deuxième septennat avec l'arrivée dans les castes, dans la caste supérieure, puisqu'ils se sont comportés en véritable caste, des Strauss-Kahniens et des amis de M. Valls, hein, qui ont pris le pouvoir à l'intérieur du Parti socialiste et qui l'ont entraîné lentement vers une pente sociale-libérale d'abord, hein, et puis ensuite libérale tout court, qui fait que les électeurs n'avaient plus qu'à choisir qu'entre libéral de gauche et libéral de droite, et c'est ce qui explique l'effondrement du Parti socialiste. Alors donc, ce livre s'appelle « Itinéraire d'un socialiste perdu à la recherche de la vraie gauche », hein, parce que je pense qu'on peut reconstruire une gauche à condition de retrouver des marqueurs idéologiques forts, hein, de les assumer pleinement, et puis surtout de changer le comportement des gens qui sont à la tête des partis politiques, parce qu'on voit bien que la plupart d'entre eux ne pensent qu'à leur carrière personnelle et se servent de leur parti pour se servir eux-mêmes. Et malheureusement, dans la période pré-présidentielle que l'on voit, dans laquelle nous sommes rentrés, moi je ne vois que des égos qui essayent de tirer leur épingle du jeu, et cela est pour moi une déception énorme, parce que ça veut dire que si on continue sur cette pente-là, eh bien nous ne serons pas une nouvelle fois au second tour.
Comment vous réagissez ou tu réagis, Jean, quand tu vois, tu parlais des égos et justement ce bal des égos, on voit Montebourg, on entend parler d'Hollande, Hidalgo, et également Madame Taubira. Tous ces gens se disent qu'ils sont candidats ou qu'ils aimeraient être candidats à la candidature, mais ils parlent jamais de programme, ils parlent jamais de la façon dont ils voient notre avenir et ce qu'ils proposent par rapport à cet avenir. Quelle est ta réaction par rapport à cette façon
particulière? Il y a un homme parmi les prétendants qui, lui, a un véritable programme. Hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas lui retirer le fait qu'il est le... Pardon ?
Il n'est pas au Parti socialiste,
mais enfin bon, il y a été, hein, comme moi, et l'avenir en commun, le programme de la France insoumise, ça c'est un véritable programme politique qui tient la route. Maintenant, on peut penser ce que l'on veut des méthodes de la France insoumise, hein. Moi j'y ai fait un court passage et puis j'en suis très très vite sorti parce que vraiment le mode de fonctionnement interne et les coups de sang de son leader me mettre hors de moi, hein, donc mais là il y a un véritable projet. L'autre projet, je ne le vois pas chez les écolos, parce que on sait pas véritablement s'ils acceptent le système de l'économie de marché qu'ils veulent transformer à la marge en lui donnant une toute petite tonalité verte comme semble l'être Jadot, ou bien s'ils veulent véritablement remettre en cause le système lui-même. Et dans la galaxie des personnalités socialistes que tu as cité, c'est un mélange de gens qui ont été très très proches du pouvoir avec François Hollande. C'est le cas d'Anne Hidalgo qui a été pendant très longtemps dans l'ombre de Bertrand Delanoë, dont on peut dire beaucoup de choses et beaucoup de choses bien, sauf qu'il est un libéral. Hein. Quant à Montebourg, son projet politique reste à l'heure actuelle confus. Hein, il faisait partie effectivement des frondeurs. Benoît Hamon a créé Génération qui n'arrive pas à décoller malgré la pertinence d'un certain nombre de ses analyses, hein, en particulier sur le revenu minimum universel, hein, qui me paraît être une excellente idée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point moi je suis scandalisé par la décision du Sénat de rejeter l'accès des jeunes de 18 à 25 ans du RSA, hein, parce que nous sommes à l'heure actuelle dans une situation tellement grave que les jeunes de 18 à 25 ans sont les principales victimes, elle leur permet d'accéder au RSA, leur permettrait d'accéder au moins à une sécurité financière bien nécessaire à leur sécurité psychologique. J'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira parce que je trouve que par-delà son discours politique, il y a un discours humaniste, présence de l'histoire, de la mémoire dans ses propos. Elle aime citer Aimé Césaire, elle aime les combats de la résistance, de la lutte contre l'oppression. Il y a chez elle une dimension philosophique que je ne trouve absolument pas chez les autres personnes que tu as citées. Et il me semble que c'est peut-être ça qu'il faut opposer à l'extrême droite, au néolibéral qui est Macron et à ces républicains incolores, inodores et sans saveur que sont la troupe de Jacob, Rotailleux et autres qui n'ont rien d'autre à proposer que d'aller chasser sur les terres du Rassemblement national. Je crois qu'il nous faudrait une personnalité un petit peu au-dessus des partis, comme elle l'est d'ailleurs, hein, et qui incarne vraiment des valeurs humanistes qui rompent avec les petites magouilles de la politique politicienne.
Jean, nous allons prendre un peu de hauteur, on ne peut pas parler que de politique. Alors que fais-tu pour occuper tes journées? Je crois qu'elles sont extrêmement bien remplies. On a compris qu'il y avait l'écriture, je sais qu'il y a la marche, il y a la natation, mais aussi des voyages à l'étranger.
J'étais très présent ces dernières années dans le Maghreb parce que le Maghreb a découvert d'abord au Maroc, puis ensuite en Tunisie, puis enfin dans l'Afrique subsaharienne, en particulier au Sénégal, les vertus de l'économie sociale et solidaire, avec parfois même des faits extrêmement marquants. Hein. La Tunisie vient de voter une loi cadre et va se doter d'un ministre de l'économie sociale. Il y a une ministre de l'économie sociale, ce qui est quand même très révélateur, et de la microfinance au Sénégal, hein, qui fait un travail extrêmement intéressant pour développer notre modèle économique qui est celui de l'ESS. Hein. Et le Maroc est également très en pointe sur cette problématique de l'économie sociale avec son nouveau, maintenant il a 20 ans de règne, hein, Mohamed VI, hein, qui dès le départ de sa prise de fonction a dit que le développement marocain devait désormais s'appuyer sur trois jambes en quelque sorte, hein. Le secteur privé, le secteur public et le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est la première fois qu'un souverain dans le monde maghrébin et surtout dans l'ensemble de l'Afrique avait ce type de discours. Il a mis ses paroles en acte. Il se passe beaucoup de choses au Maroc. Et avant la pandémie, j'enseignais dans un master d'économie sociale et solidaire à Casablanca, je faisais des conférences un petit peu partout, à Tanger, à Fès, à Agadir, à Rabat. Malheureusement, à Tunis, je suis allé plusieurs fois. Hein. Je suis allé à Dakar et malheureusement, tout ça a été interrompu par la pandémie. Et donc, je reprendrai ce travail de fond parce que je pense que l'Afrique est un continent clé dans le développement de la planète dans les années qui viennent. Et donc, je ne voudrais pas que ce continent devienne un continent de la pauvreté, abandonné ou exploité par les investisseurs canadiens, chinois ou autres. Et donc, je plaide pour une Afrique indépendante et autosuffisante. Et donc, je reprendrai mes déplacements, tout comme je reprendrai mes déplacements en France, puisque j'enseigne également un tout petit peu à Montpellier. J'ai donné quelques cours à Paris 8 Saint-Denis. Des copains m'appellent un petit peu partout, à Rennes, à Grenoble ou autres. Donc, je reprendrai tout ça, mais je veux d'abord être être vacciné parce que je suis malheureusement dans la catégorie des personnes à risque et donc je ne veux pas mettre ma vie en danger et priver mes trois garçons de leur père.
C'est bien compréhensible, ce n'est pas ce que nous souhaiterions, bien évidemment. La période est complexe, nous le savons, et complexe pour les contacts humains qui nous manquent tant. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission, puisque le temps passe, s'écoule très très rapidement. Alors traditionnellement, je pose trois questions à mes invités. La première, c'est une œuvre d'art. Parlez-moi d'une œuvre d'art qui vous a marqué. Et là, Jean, tu as choisi un film, Un air de famille de Jean-Pierre Bacri.
C'était un hommage à cet homme absolument extraordinaire hein, que j'ai encore vu avec délice hier soir dans son dernier film hein, sur ce fameux mariage complètement bouleversé.
C'est un film stressant d'ailleurs parce qu'on se met à sa place, là on est un peu sous tension en le regardant.
J'adorais Jean-Pierre Bacri, son air bougon et puis le fait qu'il fuyait finalement tout le système médiatique hein, et qu'il avait eu cette répartie. Pourquoi voulez-vous que je dise que je suis de gauche puisque je suis un homme de gauche du matin au soir? Pourquoi a-t-il besoin qu'on me demande de le répéter? Donc c'était effectivement en hommage à ce grand acteur et à celle qui fut pendant longtemps sa compagne, Agnès Jaoui. Il y a des gens dans le cinéma français qui le transcendent. Hein. Je pense à Guy Didian, je pense à Ariane Ascaride, je pense ce qui fut le couple Jaoui-Bacri. Ce sont des gens qui transcendent le cinéma français et qui fait qu'on est fiers de notre cinéma.
Avant-dernière question, le moment ou la journée particulière de l'invité, et pour toi, ça a été un certain 14 juillet où tu as reçu chez toi quelqu'un qui te tient beaucoup à cœur.
Oui, le 14 juillet 1982, j'ai eu l'immense bonheur de recevoir François Mitterrand à la maison, à Orange. Il n'était pas tout seul, il était entouré par tous les gens qu'il avait accompagnés dans ma ville ce jour-là, puisqu'il y avait eu un meeting aérien en l'honneur de l'armée de l'air à Orange, qui est doté d'une base aérienne particulièrement stratégique, la BA-115. Il y avait donc dans la petite cour de ma petite maison d'Orange, Gaston Defer, Edmond Charleroux, Louis Mermaz, Charles Hernu, Georgina Dufoy, Daniel Mitterrand, et il y avait surtout le président avec lequel j'ai pu longuement échanger. Mitterrand, pour moi, je ne peux pas être objectif. Hein. J'admire tellement cet homme que ça fait tellement partie de moi-même. Je lui dois tout. Hein. Je lui dois mon ascension en politique. Je lui dois beaucoup de choses. C'était un homme d'une grande fidélité dans ses amitiés. C'est-à-dire quand il avait rencontré quelqu'un et que le courant passait, il ne l'oubliait pas. Il m'a téléphoné, y compris à des moments difficiles pour moi, en 93, lorsque j'ai perdu ma circonscription. C'est un homme qui... Il y a un deuxième Mitterrand, sous le Mitterrand froid, solennel, qui est celui qui apparaît en public. Hein. Et donc, oui, j'ai eu le bonheur de partager ce repas avec lui le 14 juillet, puis de l'accompagner dans une promenade le 15 juillet dans les truffières de Montségur-sur-Lauzon, hein, donc dans la Drôme du Sud, puisque Mitterrand était un amoureux des arbres et parmi les arbres il y avait les chênes truffiers. Donc voilà, c'est pour moi un des souvenirs les plus marquants de ma vie.
Dernière séquence, qui est la séquence littéraire, puisque dans mes émissions, on parle toujours de livres et pour de bonnes raisons. Alors, votre choix, nous allons retrouver François Mitterrand. Vous avez choisi de conseiller à nos auditeurs la lecture. Alors, c'est une lecture certainement qui prend du temps, mais en période de pré-confinement et après de confinement, nous l'avons, ce temps. Ça s'appelle « La dynastie Mitterrand ». C'est par Pierre Favier et Michel Martin-Roland, qui sont deux journalistes de l'AFP, si je crois.
Oui.
Et c'est paru au Seuil, Par contre, il y a quatre volumes, donc il faut prendre, faut prendre du temps et aimer la lecture, mais j'espère que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs. Et ce sont les années de 80 à 95, c'est ça, Jean ?
C'est ça, c'est la saga Mitterrand, hein, racontée par un homme qui a été vraiment très très proche de lui, à tout point de vue institutionnel, puisque Pierre Favier, qui est un de mes amis, était accrédité à l'AFP, par l'AFP à l'Élysée. Michel Martin-Roland lui a donné, a co-écrit avec lui ses quatre tomes de la décennie Mitterrand, et on retrouve véritablement non seulement une description des événements, et Dieu sait si cette décennie a été marquée par des événements importants, y compris pour notre pays. C'est l'intégration européenne par Maastricht, hein, dont j'aurais beaucoup à dire et dont je dis beaucoup dans le bouquin qui va sortir. C'est les épisodes extrêmement douloureux des conflits dans lesquels la France a été engagée au Liban, au Tchad, puis ensuite malheureusement en Irak, hein, et au Moyen-Orient. Ça a été la période où l'Europe a balbutié, hein, sur ses fondements. Ça a été la période de la fin du bloc soviétique et de l'effondrement du mur. Ça a été la période où nos rêves de construire un socialisme à la française ont été balayés par l'histoire, hein, et nous avons dû nous adapter, hein, un mot que je déteste, hein, puisque on a l'impression qu'on est toujours dans une société où il faut s'adapter, hein, je déteste ce mot. Et donc c'est un livre extrêmement documenté et qui en plus fait une part très très large à ce qu'est le personnage de François Mitterrand. Donc c'est vraiment un livre pour les historiens et pour les gens qui aiment la politique ou le politique plus exactement, qui est à lire.
Voilà, la décennie Mitterrand, au seuil, Pierre Favier et Michel Martin Roland. Alors, pour ma part, je vais vous recommander deux livres. Aux origines de la catastrophe, pourquoi en sommes-nous arrivés là ? C'est au lien qui libère, et c'est sous la direction de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, qui ont été cités tout à l'heure par Jean Gattel. Pourquoi nous en sommes arrivés là ? Alors, c'est un livre intéressant. Il réunit 25 auteurs de renom, anthropologues, on trouve des biologistes, des économistes, des sociologues, philosophes, historiens, etc., et qui vont avoir une approche pluridisciplinaire et véritablement qui est accessible à tout public. Donc, je vous le recommande, 17 €, ce n'est pas très cher. Aux origines de la catastrophe, pourquoi nous en sommes arrivés là ? Et un deuxième qui est absolument passionnant, que je suis en train de terminer, qui est du sociologue Gérald Bronner et qui s'appelle « Apocalypse cognitive ». Et Gérald Bronner nous explique comment notre cerveau, le temps plus exactement de notre cerveau, qui a été libéré par les machines, on a un peu plus de temps aujourd'hui pour vivre, comment ce temps est finalement volé et comment on nous influence, comment on utilise notre cerveau. Il nous montre aussi les limites de ce cerveau, limites bien connues de certains GAFA, qui, avec les fameux moyens modernes, hein, que nous connaissons, capturent ce temps de cerveau pour nous y implanter beaucoup de choses qu'on ne devrait pas y voir. Gérald Bronner est toujours passionnant, il sait très bien décrypter notre société, ses travers et surtout les dangers qui nous guettent. Et ce livre-là qui se lit quasiment d'un trait, parce qu'il est absolument passionnant et très, très abordable intellectuellement, je vous le recommande, c'est aux Presses universitaires de France, au PUF, Gérald Bronner, Apocalypse cognitive. Je crois que tout le monde devrait le lire pour comprendre un peu où on en est et où certains voudraient nous mener.
Très belle conclusion. Nous sommes dans une société où certains essayent de jouer la carte de l'abêtissement général, hein, et de la disparition totale du sens critique. Et la disparition du sens critique, c'est la disparition de la République.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, une fin peut-être provisoire, Jean, parce qu'il y a, donc je le rappelle, Itinéraire d'un socialiste perdu à venir, et nous en reparlerons. Il y a également L'économie sociale et solidaire, libre et solidaire, un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir, que je ne peux que vous recommander chaudement. En tout cas, merci Jean d'avoir passé cette heure avec nous. C'était Cap, une émission de Jacques Lavergne. avec à la technique Yannis Boudin qui montera cette émission. Vous pourrez retrouver le podcast de celle-ci et de toutes les autres émissions, bien sûr, sur le site de la station Esprit Occitanie. Jean, encore une fois, merci et à bientôt.
Je t'en prie. Bonne amitié, Jacques.
Bonne semaine à toutes et à tous.
Amitié.